Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Et ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Michaël Darmon.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Et deux gros sujets sur lesquels on a envie de vous entendre ce soir. Marine Le Pen qui se lance dans la course à la présidentielle pour 2022 et le coût de la grève à la SNCF, gigantesque. On en parle dans un instant. D'abord, la patronne du Rassemblement National qui a confirmé aujourd'hui lors de ses vœux à la presse, ce sera une troisième consécutive. C'est pas vraiment une surprise, mais n'est-ce pas tôt? Qui veut se lancer ce soir? Charles Villeneuve.
Eh bien écoutez...
Sur la forme d'abord.
Je dirais qu'elle est comme son père, ou comme son père a été, elle est toujours candidate. Il y a toujours un Le Pen candidat, finalement, à la présidentielle. Mais je pense qu'elle a deux raisons. Elle a une raison interne et une raison externe. La raison interne, c'est surtout le fait que beaucoup dans le parti doutent, si vous voulez, de son blocage psychologique dû à son débat, et se demande si elle ne doit pas exorciser justement ce blocage, etc. Et de se lancer dans la campagne maintenant, d'autant plus que le contexte n'est pas si mal choisi que ça, finalement. Parce que maintenant, nous sommes dans une, si vous voulez, période très particulière où la réforme des retraites pose question à la fois sur son utilité et sur son efficacité. Et puis, l'exécutif Macron et Philippe espérer isoler le mouvement de grève et contrairement, si vous voulez, croyez que l'opinion, elle aussi, allait petit à petit, si vous voulez, sur le plan de son approche positive, s'effilocher. Au contraire, la sympathie qu'une partie de l'opinion éprouve pour les grévistes se maintient. Bon, et donc, en même temps, les partis les plus durs, les plus jusqu'au boutistes, finalement, n'ont pas obtenu le retrait total, même s'ils ont obtenu des avantages indéniablement, ouais. et n'ont évidemment pas provoqué le grand chambardement qu'ils espéraient. Voilà. Donc c'est une sorte de grand match nul, si vous voulez, avec une opinion publique, finalement, et d'un pays divisé sans solution.
D'accord.
Et
alors...
c'est la raison pour laquelle, d'après ce que je sais, si vous voulez les renseignements que j'ai pu puiser au Rassemblement National, c'est le contexte qui leur apparaît assez bon pour qu'elles puissent se décider.
Le contexte favorable, selon vous, Charles, et selon vos infos. Catherine, comment vous voyez ça? Vous interprétez ça, vous, comme de la précipitation?
Moi, je crois que...
Les Français en sont loin, quand même, 2022.
Je crois que ça cache quelque chose. Ah. Parce que si elle intervient maintenant, c'est que maintenant on va entrer dans le dur pour le Front National et que c'est un parti très endetté, qui doit en tout près de 30 millions. Il n'y a plus différents procès, elle doit de l'argent au Parlement européen, 4 millions à son père. En tout, ça fait 30 millions. Or aujourd'hui, le Front National, il est propriétaire de rien. Il n'a pas d'actifs. Ils avaient déjà vendu leur paquebot, 10 millions, qui était un énorme truc. Maintenant, leurs bureaux sont loués. Et donc, il va bien falloir payer et elle risque d'avoir la justice contre elle. Et moi, je pense que si elle avance la date de sa candidature, ce qui n'étonne personne puisqu'elle est la seule possible au parti, c'est aussi pour dire que l'acharnement judiciaire va arriver au moment où elle est candidate. Donc, et que c'est pour l'empêcher d'être candidate et que c'est une manœuvre.
Une manœuvre l'empêcher
d'être...
D'accord. Bon. Voilà la lecture de Catherine Ney. Michaël Darmon, vous, comment vous observez ça? Parce que, je le disais, les Français ne sont quand même pas déjà préoccupés par la présidentielle de 2022, non? Avant, il y a les municipales, au mois de mars, on sort à peine des grèves.
Oui, mais enfin, c'est aux politiques, et en particulier aux candidats, de penser en permanence à la campagne présidentielle, c'est leur métier. Que les Français ne soient pas impliqués encore ou concernés, c'est également tout à fait normal. Je souscris et je prolonge ce que vient de dire Catherine. En fait, c'est la vitrine, je dirais, légale de la demande de prêt. C'est-à-dire qu'elle a besoin, effectivement, d'obtenir un prêt pour la campagne présidentielle. Donc, pour pouvoir le faire, il faut qu'elle soit déclarée candidate de manière à pouvoir convaincre un établissement financier, quel qu'il soit, parce que c'est vrai.
Mais elle n'aura pas de prêt si elle ne rembourse pas ses dettes.
Voilà, et l'inquiétude qu'ils font en permanence ressentir lorsqu'on parle en liberté avec les quelques cadres du RN, c'est effectivement l'inquiétude sur l'état financier de l'appareil. Après, c'est vrai qu'il y a des circonstances politiques. qu'elle est effectivement en campagne permanente et surtout qu'elle tire un trait sur ce qu'elle avait dit après 2017. Elle avait dit si quelqu'un est mieux placé que moi, je pourrais me retirer, bien évidemment.
Étant certain qu'il n'y aurait personne.
Alors, on se reparle dans un instant parce qu'on va aller sur le fond, justement. Est-ce qu'on va vivre un remède revanche face à Emmanuel Macron? Le fond, c'est dans un instant.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est 2 heures d'info tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir autour de vous, Nathalie Lévy, pour réagir et débattre à l'actualité. Catherine Ney, Charles Villeneuve et Michaël Darmon.
Pas vraiment de surprise, hein, on en parlait il y a un instant. La patronne du Rassemblement National, Marine Le Pen, a confirmé aujourd'hui qu'elle se lançait dans la course à l'Élysée, 3e fois consécutive. Bonsoir André, vous nous appelez depuis Strasbourg, bienvenue à vous.
Bonsoir Nathalie, bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bien, très rapidement, c'est totalement prématuré, ça n'intéresse absolument personne à part... Pardon ?
Oui, allez-y.
Ça n'intéresse absolument personne à part ceux qui rêvent d'avoir un Marocain ministériel sous le bras dans 2 ans et demi. Troisièmement, on préférerait un programme que le nom d'une personne. Mmh. Et quatrièmement... Toute l'expérience politique de la Ve République démontre que ceux qui sont candidats très 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 longtemps à l'avance ne
c'est
sont
vrai.
Jamais
très
élus. Ne sont, et cinquième point, Marine Le Pen a tendance à penser que ce sera à coup sûr M. Macron qui sera nouveau en face d'elle. Moi, j'en suis beaucoup moins convaincu.
Vous nous direz qui vous voyez sortir, alors.
Il y a trois noms dont je voudrais rappeler. Oui. Raymond Barre, Édouard Balladur et Lionel Jospin, qui à coup sûr étaient au deuxième tour en 88, 95 et 2002 et qui n'y ont pas été.
L'histoire est passée par là, vous vous en souvenez parfaitement. Merci beaucoup, André. On aurait dit Gérard Carrérou, hein, un peu la voix. Merci, André de Strasbourg. Alors, écoutons, Charles, sur l'opinion, justement, parce qu'on parlait de ça juste avant.
Moi, je souscris assez à ce que vient de dire notre ami. Parce que, sincèrement, la préoccupation des Français n'est pas de savoir quel sera le destin de Marine Le Pen. À l'heure actuelle, il est plutôt orienté vers la fin de la grève et de reprendre une vie normale. C'est vrai que c'est ça. Maintenant, je pense que Michael a raison aussi de dire que un candidat en puissance à la, à la présidence de la République ne pense quasiment qu'à ça, matin et soir, on se souvient de la phrase de Nicolas Sarkozy, j'y pense même en me rasant.
Exactement.
Et c'est vrai, mais les électeurs à l'heure actuelle, notamment, si vous voulez, ils pensent alors au transport en commun, quand est-ce que ça va s'arrêter.
Et puis il y a une défiance qui s'est installée.
Quand est-ce que le business va reprendre. C'est surtout ça, et les PME aussi.
On va en parler dans la deuxième partie.
C'est très intéressant aussi la deuxième partie d'André.
Le programme.
Oui, non, mais pas seulement le programme, c'est-à-dire ceux qui se lancent trop tôt. Et puis les accidents politiques arrivent. Il faut se souvenir de Lionel Jospin, il faut se souvenir d'autres aussi.
Exactement. Juste Michaël Darmon sur le programme, parce qu'il en parlait aussi André, le programme présidentiel, on s'attend à quelque chose de plus solide pour 2017 du côté de Marine Le Pen, on espère. Il faut absolument, le régalien, on sait. On a des idées sur le programme économique, c'était là que ça pêchait.
Bah, pour l'instant, le régalien, on sait qu'on ne sait pas. On n'a jamais vu Marine Le Pen diriger la police, la DGSE,
l'armée. Évidemment, mais on connaît le fond du sujet.
Il y aura, certes, c'est la raison pour laquelle, tant que quelqu'un n'est pas arrivé à ses manettes, il ne sait pas le faire. Donc ça, de ce point de vue-là, elle est comme tout le monde. Après, sur le fond, quand on parle avec les cadres du RN aujourd'hui qui préparent le programme, ils disent on est en train de créer un chemin entre populisme assumé et crédibilité de gouvernement. Et c'est tout le travail qu'il est en train d'être fait.
Ils sont toujours pour la retraite à 60 ans, ce qui est quand même pas...
Et notamment, la démarche politique intéressante de ces moments, de ces dernières périodes, c'est pour la première fois, explicitement, Marine Le Pen a soutenu un conflit social.
Absolument. Et Marine Le Pen, avec ce dernier sondage, Catherine, l'étude lab de novembre pour BFM TV affirmait que si elle y allait, elle serait au coude à coude avec Emmanuel Macron au premier tour du scrutin. Jean-Luc Mélenchon loin derrière, un potentiel candidat Les Républicains loin derrière. Les enquêtes d'opinion, elles se succèdent et elles vont s'accélérer évidemment d'ici 2022. On est toujours arrivé aux mêmes conclusions depuis déjà des semaines.
Ben oui, c'est l'idée du plafond de verre. Est-ce que cette fois, elle va le crever ? Parce que la dernière fois, elle avait fait 24%, je crois, au premier tour. Et on pensait que pour l'emporter, en tous les cas, pour donner une crédibilité de futur présidentiable, il fallait au moins qu'au deuxième tour, elle ait 40% des voix, ce qu'elle n'a pas fait. Et ça, quand les députés les députés du Rassemblement National, tous les militants ont vu que ça serait difficile de le faire. Là, compte tenu aujourd'hui de la popularité du président, ses sympathisants pensent qu'elle pourrait cette fois passer. D'ailleurs, elle le croit tellement qu'elle a dit hier que elle serait même obligée de se représenter parce que, comme sortante, donc elle croit à son élection. Mais ça aussi, c'est une partie de bluff. C'est pour, justement, si elle a ses ennuis judiciaires, pour dire, on m'embête au moment où j'ai des chances, pour une fois, de l'emporter. Voilà.
On va aller sur l'autre sujet sur lequel j'aimerais beaucoup vous entendre dans un instant. C'est ce chiffre, quasiment 1 milliard d'euros, le coût de la grève à la SNCF. Et du coup, il va falloir trouver de l'argent, d'une manière ou d'une autre, un plan d'économie, dès le mois prochain. Tout de suite.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours, jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et jusqu'à 19h, c'est le débat des grandes voix avec ce soir autour de la table Catherine Ney, Charles Villeneuve et Mickaël Darmon.
Et ce chiffre, pratiquement 1 milliard d'euros de pertes pour la SNCF après plus d'un mois de mobilisation, de grève. En fait, là, à l'heure actuelle, on est à 850 millions pour être exact et il y aura un plan d'économie, a dit Jean-Pierre Farandou à la mi-journée parce que, voilà, les choses se sont enquistées, se sont allongées et le PDG du groupe public tire la sonnette d'alarme. Il fallait s'y attendre à ce chiffre.
Oui.
Charles Villeneuve.
Sérieusement, oui. Ça s'ajoute d'ailleurs, cela étant, au coût des concessions faites par le gouvernement dans le cadre des réformes des retraites. Parce qu'il faut les compter, elles aussi.
Les pompiers, les
et
policiers.
Et puis alors, il y aura un plan d'économie, dit le PDG, le nouveau PDG de la SNCF.
Février, absolument,
ah oui,
dans quelques jours.
Mais
ce sont les...
Ça veut dire quoi alors?
Mais où?
Il a dit pas de suppression de postes, Catherine.
Pas de suppression de postes, il y aura des cessions, je ne sais pas lesquelles, mais cessions d'actifs, mais surtout, c'est les usagers qui vont en pâtir parce
mais
que ça veut dire qu'il y aura moins de machines neuves, enfin de wagons neufs, de voilà ce qu'il faudrait.
Mais Catherine,
d'équipement.
Est-ce qu'on va augmenter le prix des billets?
Ah, peut-être.
Alors,
oui.
C'est a priori pour les clients, la plutôt bonne nouvelle pour l'instant, c'est plutôt la vente de billets à petit prix. C'est qu'on nous promet pour l'instant.
Vous savez très bien pourquoi. Parce qu'ils ont pris d'autres habitudes, les gens. On le voit tout autour de nous.
Mais alors, ça veut dire quoi? On donne d'un côté, on prend de l'autre?
S'il y a
comme ça une bousculade de vente de billets à petit prix, c'est ce qui est annoncé.
Et puis, n'oublions pas le coût d'image pour la SNCF, des entreprises en tout cas concernées, dans un contexte d'ouverture à la concurrence qui est finalement va arriver très vite.
Alors, Mickaël Darmon.
Oui, effectivement, je pense que la donnée la plus importante, la SNCF devient Air France. C'est-à-dire devient la compagnie nationale de transport dans un contexte ultra concurrentiel. Et bien évidemment, les usagers, les voyageurs, les Français vont avoir à choisir maintenant et pourront choisir les différentes compagnies, différents trains. Donc de ce point de vue-là, il y a bien sûr un travail qui va être fait. Ce chiffre, il est là pour impressionner l'opinion. Les experts sauront décortiquer pour dire évidemment à quoi il correspond. Personnellement, je ne saurais le faire. Mais ce qui est intéressant également, c'est de voir au fond à quel point il y a aussi une évolution de la société. La SNCF est devenue une société anonyme. Elle a changé de statut. Ceux qui entrent maintenant à la SNCF ne sont plus des cheminots au statut. Il n'y aura pas de régime spécial, ou en tout cas, ce ne sera pas réorganisé de la même manière. Donc, bien évidemment, on va aller vers un changement du modèle économique de la SNCF.
Oui, c'était prévisible avant la grève, de toute façon, puisque on le savait.
C'était l'année dernière, c'était en 2018.
Michael, là où le modèle économique ne va pas beaucoup changer, c'est toujours le même moyen d'atténuer le coût final, non?
Ah oui, c'est la rentabilité.
C'est le contribuable en général.
Alors voilà. Pour la SNCF, bien évidemment, c'est pour ça que se posera à terme la participation de l'État de plus en plus. C'est pour ça qu'on va rentrer dans une logique d'Air France, mais qui prendra des années pour évoluer comme Air France a évolué.
À vos souhaits, Catherine. Ce qui permet avec le coût à la SNCF, c'est aussi de regarder tous les secteurs aujourd'hui qui ont été impactés par cette grève durable, plus de 31 jours. Les entreprises franciliennes qui ont dépensé en moyenne 233 euros par salarié par 40 jours de grève. Ça fait des sommes là aussi dantesques. On est à 400 millions d'euros par jour pour l'économie du pays. Ça a coûté plus de 15 milliards d'euros à l'économie du pays, cette grève.
Les calculs ont été faits par la Confédération des PME.
Ça fait 400 millions d'euros par jour.
Oui,
donc, quels que soient les secteurs.
Et alors, comme en plus aujourd'hui, le moral des ménages est en berne, d'ailleurs, on voit qu'ils ne se ruent pas sur les soldes, ça veut dire qu'ils vont moins consommer et que si on consomme moins aujourd'hui, alors que c'est le principal moteur de la croissance, on ne sait pas du tout ce que sera la croissance dans l'année. C'est très, très préoccupant.
Sauf que quand on fait les totaux, là encore, avec tous ces secteurs, que ce soit l'hôtellerie-restauration, on en a parlé dès le début du mouvement, c'est eux qui ont été évidemment impactés.
En Ile-de-France, c'est entre 40 et 50% de chiffre d'affaires en moins. Et d'ailleurs, beaucoup ne survivront pas malgré les aides du gouvernement qui acceptent de décaler leurs charges et tout ça. Beaucoup vont fermer, alors que justement à Paris, Ce qui manquait, c'était des petits hôtels de prix moyen, voire pas cher. Pour les... Donc ça va peut-être inciter les Parisiens à louer encore plus leurs chambres, ce que ne voudrait pas la mairie de Paris.
Exactement, voilà. Par exemple. Donc oui, vous l'avez dit, l'hôtellerie, la restauration, on l'a dit, la SNCF, les entreprises, les petites et moyennes entreprises. C'est, au final, quoi ? Le contribuable, il est perdant à tous les niveaux, aussi bien dans les transports que effectivement sur tous ces secteurs.
Mais pendant et après la grève, oui.
Mais c'est tout le temps vers lui qu'on se retourne au final. Et il faut bien aller chercher l'argent quelque part. Et celui qui finalement a cet argent, c'est quand même le contribuable. On peut nous raconter tout ce qu'on veut, surtout quand on cite l'État. Mais l'État va compenser, mais l'État va se substituer. Mais l'État, c'est qui ?
L'État, c'est qui ? C'est nous. C'est notre pomme. Michaël Darmon.
Oui, l'État a de moins en moins, effectivement, de capacités financières. En même temps, il faut aussi bien être conscient. Non, mais on peut détabouiser cette expression. Voilà. Justement. En même temps, je disais, il ne faut aussi pas considérer que tout le pays a été bloqué. Nous parlons de l'Île-de-France principalement. Là, la France reste le premier pays touristique au monde et il y a énormément de régions qui n'ont pas été touchées par cette grève, par ce conflit et qui continueront à avoir leur développement économique.
Oui, on l'a dit, vous faites bien de le mentionner, mais effectivement, ce sont les Franciliens, on le rappelle régulièrement, ce sont les Franciliens qui ont été particulièrement impactés. Merci beaucoup les grandes voix du jeudi, merci à vous d'être là.